être un homme blanc, cisgenre, hétéro, c'est quand même. C'est bien, s'il vous plaît. Finalement, je me dis, là, au moins, quand je fais des gestes, on les comprend. C'est être quand même au sommet de la chaîne alimentaire.
Oui, si on veut classer comme ça, oui.
Et donc, mais toi, Valérie, tu as remis ça en question.
Oui, moi je me suis
Enfin, c'est pas
posé
toi qui l'as remis en
non, j'ai pas,
question.
non, non, mais en me disant, mais c'est vrai que pour le moment, les hommes, ils ont un peu un rôle difficile. Je trouvais donc, je me suis posé la question, être un homme aujourd'hui, est-ce que c'est un privilège ou est-ce que c'est un mal-être? On en est où par rapport à ça? Quelle est la place de l'homme dans notre société actuelle, quoi? Parce que les contours, en fait, sont plus du tout nets. Quand on regarde comme ça, on se dit, mais voilà, c'est un peu flou, quoi. Alors que les premiers travaux, en tout cas portant sur les hommes, datent des années 70, au moment effectivement des revendications par rapport à l'égalité des sexes. Et puis dans les années 80, hop, il y a un rappel, la domination des hommes, il faut adopter, enfin les hommes en tout cas adoptent des nouvelles stratégies pour préserver leurs privilèges. Déjà à l'époque, on emploie le mot privilège. Et en fait, ils adoptent une espèce de comportement qui les fait, enfin, qui les fait passer pour les grands perdus de la révolution féministe. Donc à un moment, ils s'adaptent à ce qui se passe et ils font, mais nous on est des petits malheureux, donc voilà, années 80, on est un peu là. Puis dans les années 90, on parle d'identification des mécanismes et on parle de masculinité hégémonique, donc de suprématie politique de l'homme, économique et sociale. Et donc c'est un nouveau concept qui apparaît, quoi. Jusque-là, on n'en a pas trop entendu parler. Et puis, depuis les années 2000, mais pour moi, dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai compris, il y a une espèce de crise de l'identité masculine qui se développe. Et donc, ma question, j'étais en train de me poser, c'est est-ce qu'on est en train de vivre la fin de l'homme, mais dans le sens du mâle à l'ancienne, du mâle alpha, du sexiste misogyne, boosté à la testostérone, enfin chef des chefs. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce qu'on a vraiment un revirement par rapport à ça, quoi? Et je me suis dit, ok, je vais un peu aller voir dans l'histoire aussi. Et effectivement, on nous présente toujours l'homme comme un guerrier, un combattant, etc. Mais on ne nous parle pas à l'époque romantique voilà, de ceux qui portaient des perruques ou avaient des positions plus sensibles par rapport à la littérature, etc. Ceux-là, on les occulte souvent aussi par rapport à tout ça. On ne parle pas qu'il y avait sûrement des papas poules à l'époque aussi. Et que l'histoire des hommes est liée à l'histoire de la famille. Parce qu'on les, on, pour le moment, j'ai toujours l'impression qu'on les présente comme ça tout seul, voilà. Mais non, l'histoire des hommes, c'est l'histoire de la famille, c'est l'histoire de la société. Et donc, la société évolue, donc forcément, les hommes évoluent aussi, quoi. Et on peut constater effectivement que la balance a toujours penché en faveur des hommes au détriment des femmes. Ça, on ne peut pas le nier. Mais je trouve quand même que, à ce stade-ci, comme on en a parlé tout à l'heure, le statut des hommes est à réinventer. Et donc, ma question, c'est être un homme en 2019, qu'est-ce que ça signifie? C'est à ce stade-ci, c'est vraiment ça, quoi. Et avec les transformations du travail, etc., on s'éloigne aussi de cette image du travailleur musclé, viril, qui ramenait les sous à la maison. Voilà, maintenant les femmes travaillent. Il y a certains groupes maintenant d'hommes qu'on appelle les masculinistes, c'est parfois difficile un peu à prononcer, qui veulent reconstruire en fait leur identité sur une virilité poussée à l'extrême, quoi. Donc c'est vraiment, on fait quasiment des camps de virilité, quoi. On part, on a des chaussures de combat, on fait de la survie, on se booste vraiment à la testostérone, quoi. Donc comme s'il y avait un besoin de se reconnecter à ça, pour certains en tout cas. Et le problème, c'est que la détestation du féminin, quelque part, n'est jamais très loin par rapport à ça, parce que c'est l'homme contre la femme, quoi. Et donc, c'est un peu gênant. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Et on en revient toujours à les hommes sont en crise parce que les femmes mettent à mal leur domination. Donc, on tourne toujours par rapport à ça. Voilà, moi, je constate juste une certaine guerre contre les femmes. Voilà, ça s'installe. Mais pourquoi les relations hommes et femmes sont toujours présentées sous la forme de gagnants et de perdants? Parce que si on peut considérer à certains moments que les femmes, en tout cas à certains niveaux, sont supérieures aux hommes, pourquoi est-ce que c'est un problème de considérer que les hommes peuvent être supérieurs aux femmes à d'autres moments? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être simplement dans quelque chose qui peut être égalitaire, mais qui peut être aussi, voilà, on a des terrains où on est meilleur et c'est pas un problème, tout peut s'organiser de la même façon, quoi. Et donc, comme disait Erasme, on ne naît pas un homme, on le devient. Et donc, à ce moment-là, je me suis penchée sur, ben oui, quand on est un petit garçon, enfin, on grandit avec quoi dans les bottes? Donc, qu'est-ce qu'on nous met là à la naissance et à l'adolescence? Avec des codes de la virilité. Voilà, moi, je trouve que, en tout cas, en étant une femme, je trouve que c'est pas toujours facile de devenir un homme, vu de l'extérieur comme ça, quoi. Il y a plein d'injonctions que les garçons reçoivent depuis l'enfance et que, justement, ces fameux mouvements masculinistes revendiquent, donc pour masquer une espèce de malaise identitaire. Et donc, face à ça, il y a aussi des garçons qui sont éduqués dans un contexte féministe et qui peuvent se joindre au mouvement MeToo, etc. Et qui ont des filles et qui veulent que leurs filles soient bien et ne soient pas malmenées justement par un système inégal. Et ceux-là, ils doivent grandir aussi dans des injonctions paradoxales parce que, en fait, comme tout se conjugue en binaire, si on épouse des valeurs féministes, ben, on dévalue la partie masculine, quoi. Donc on est toujours dans un truc, les hommes, j'ai l'impression, sont toujours dans un truc pour contre, et si on va d'un côté, quelque part, on dévalorise l'autre côté, quoi. Et voilà, est-ce qu'au final, tout ce questionnement ne représente pas une espèce d'abus intellectuel ? Parce que, voilà, c'est, parfois, c'est un vrai questionnement, et parfois, moi, je trouve que c'est un questionnement qui est poussé à l'extrême. Alors, voilà. Où sont les hommes maintenant? Où ils se situent? Où ils sont cachés, quoi? Est-ce que voilà, comment tirer votre portrait dans cette espèce de d'ère post-industrielle où il y a plein de modèles masculins, il y a plein d'identités qui se bricolent, qui se construisent et qui s'égalisent, et loin de tout privilège de genre justement, quoi. Donc moi j'avais quand même une question, c'est en tout cas comme tu es là, moi je vais te poser la question. Pour toi, être un homme en 2019, qu'est-ce que ça signifie? T'as pas la réponse? Oh non, c'est pas possible ça.
Par contre, c'est à ce moment-là.
Oui. Oui, on t'entend pas bien là.
Hop. Non, j'ai absolument pas la réponse. Par contre, c'est clair que c'est qu'est-ce qu'on veut valoriser, tout simplement, chez le garçon. Où est-ce qu'on met de la où est-ce qu'on met de la valeur, où est-ce qu'on met du mérite, quoi. Et jusqu'à présent, en tout cas dans les normes les plus conventionnelles, c'est exactement ce que tu décrivais. Il fallait être ou il faut être un homme fort. Il faut être un homme fort, c'est aussi un homme qui peut dominer, qui peut dominer la femme ou qui peut dominer à peu près tout ce qu'il veut dans son état naturel, quoi. Et puis après c'est l'homme qui réussit, quoi. Avec une femme, il y a toujours une femme derrière un homme qui réussit, hein, ça c'est toujours très important. Et donc bon voilà, je pourrais amener plein de stéréotypes comme tu les as amenés toi. Moi je pense qu'en fait là on est occupé à remettre en cause ce qu'on valorise, tout simplement, quoi. Et alors à côté de cette remise en cause des valeurs qu'on a amenées à ces hommes, il y a d'autres types de personnalités, d'autres types de tempéraments, d'autres types d'hommes, d'autres types de relations qui naissent. Et là arrive la fragilité, quoi. La fragilité masculine.
Ah, ça j'aime bien, fragilité masculine. Ça, c'est joli. Ouais.
Moi, je me sens touché dans mon ego, dans mon orgueil, dans quoi j'ai toujours cru me construire, c'est-à-dire le moule dans lequel j'ai voulu être, dans lequel on m'a mis, et dans lequel on m'a mis aussi certains privilèges, quoi, avec lesquels je me suis doté, avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels finalement je suis bien, et desquels j'ai pas envie j'ai pas envie de me séparer, quoi. En plus, on m'a attribué plein de valeurs, plein de valorisations, plein de trucs que je sais pas nécessairement faire. Mais moi, j'aime bien les garder, quoi. Et de l'autre côté, il y a des femmes et des hommes qui essaient d'enlever ce type de privilège-là, leur dire en fait c'est de la merde ça, et ça c'est pourri. Et donc il y a une réaction qui est cette réaction qu'on appelle, ou qu'on pourrait appeler cette fragilité masculine, qui existe aussi d'ailleurs dans d'autres types de privilèges qu'on essaie de déconstruire. Et qui est cette réaction conservatrice, quoi. Je veux conserver ma place dans cette hiérarchie, je veux conserver l'image que je veux qu'on renvoie de moi, et qui peut avoir du coup plein de réactions différentes. Il y a des gens qui vont justement se reconcentrer dans des camps masculinistes, d'autres qui vont écrire des billets ultra conservateurs, antiféministes, super violents, d'autres qui du coup en fait vont appréhender ça de manière beaucoup plus constructive et vont essayer d'analyser un peu ce qui se passe dans leur environnement et de se dire, ah, il y a peut-être en fait des catégories de personnes qui ont été oppressées, dominées durant toutes ces années ou tous ces siècles, et qui essaient d'en se libérer, quoi. Donc comment est-ce que moi je peux me positionner par rapport à ça, pour peut-être éventuellement reformuler ma personnalité masculine, et éventuellement aussi d'un point de vue plutôt justice sociale, pour donner un peu du sens à ma vie, j'en sais rien, d'une utilité à d'autres catégories de personnes, comment est-ce que je peux alors aider ces personnes-là à se libérer d'oppression ou de domination desquelles elles ont envie de sortir. Et je suis d'accord avec toi, il y a une certaine forme de remise en cause culturelle, en tout cas chez nous, en Occident, quoi. Mais c'est dans un contexte où on est dans des changements de modèles, quoi. Je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des modèles capitalistes qui sont occupés à être remis en cause. Il y a le réchauffement climatique qui amène toute une série de choses à revoir dans son comportement, dans la consommation, dans la production. Et à côté de ça, effectivement, il y a le féminisme et le féminisme intersectionnel qui ont amené les questions d'égalité homme-femme et de racisme en même temps, qui ont réussi à croiser les choses, qui confronte le truc super fort et c'est un mouvement qui est occupé à monter. Et alors dans ce cadre-là, moi je trouve qu'on est bien dans ce contexte un peu de trouble idéologique où les gens sont en perte de repères, ça se manifeste de plein de manières, mais notamment par des montées des conservatismes et des populismes importants, quoi, où effectivement les gens se réfugient dans des collectifs ou des partis d'extrême droite qui vont ramener les valeurs conservatrices de manière beaucoup plus claire, ou parfois ça va même pas jusqu'à l'extrême droite, hein, le mouvement de la manif pour tous c'était un peu ça aussi, on revient là où on était avant, quoi, c'était mieux avant, on s'est on était, au moins ça c'est clair. Et de l'autre côté, évidemment, il y a des mouvements beaucoup plus progressistes qui partent dans plein de sens différents, qui sont beaucoup moins rigides, et où là, on ne sait pas encore où ça va, mais ça, c'est plus progressiste, quoi. Et c'est la phrase de Gramsci qui dit « Quand les vieux modèles s'effondrent, que le nouveau monde tarde à renaître, dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Et donc là, on est plutôt dans cette optique-là, moi je trouve, en tout cas, dans cette optique où il y a une remise en cause de tous les modèles qu'on nous a construits, des modèles monolithiques dominants depuis des dizaines d'années, depuis des siècles, et où il y a ce brouillard, et dans le brouillard, il y a autant les populismes d'extra-droite, les monstres qui se régissent, autant que nous, qui essayons de faire d'autres choses et de construire autre chose, même si on n'a pas le modèle de société et de vivre ensemble idéal, au moins on sait que là où on est et ce qu'on fait, on l'expérimente pour effectivement avoir plus d'égalité et plus de justice sociale.
Merci. Oui.
T'es pas voilà.
Voilà.
T'avais une chanson qui est avec ça.
J'avais une chanson qui est avec ça, oui. On va écouter un petit morceau de Zazie, Je suis un homme, et je trouve qu'elle est pas mal, dans le genre.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein de belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon, moi je te
écoutez Radio Esperanza. Za, za, za.